Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vendredi ou la vie locale sur Radio Vassivière. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, collectif cofondé en 2012 par le politologue et professeur en école d'architecture Sébastien Thierry et le paysagiste Gilles Clément. Gilles Clément est installé en Creuse, mais c'est l'association feltinoise Quartier Rouge qui donne localement une existence concrète aux actions du collectif. C'est Pomme Boucher qui nous parle aujourd'hui de Pérou, des actions et des ambitions locales, nationales et européennes du collectif, vers une inscription des actes d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Ce collectif-là travaille dans différents contextes de réalité, plutôt au départ urbaine. Donc qu'est-ce qui se passe dans les grandes villes, autour des grandes villes, notamment tous les espaces qui ont été réinvestis par des camps ou aussi des bidonvilles entre guillemets, mais voilà, tout ce qui se passe en périphérie des villes. Et donc ils ont travaillé notamment dans des camps pour les gens du voyage, mais aussi ils ont été à Calais. Nous, c'est à ce moment-là en fait qu'on les a rencontrés. On a connu cette démarche-là, qu'on a suivie comme ça un petit peu de loin pendant un temps, puis très rapidement, effectivement, c'était lié aussi à l'atelier de géographie populaire, qu'on a mené collectivement avec l'association Pivoine, avec la Pommerie, avec aussi Quentin Paternoster, et puis Lauriane Estac, et Till Roskens, qui était bien évidemment à l'origine en fait, de cet atelier collectif. Et c'est un peu suite à l'atelier de géographie populaire en fait, qu'on s'est intéressé à ces questions-là. Et le premier horizon géographique, effectivement, avait plutôt comme idée de réunir des personnes qui travaillent sur la cartographie, entre autres. Et évidemment, le travail de Sébastien et du Pérou à Calais nous a particulièrement intéressés. Donc ils sont venus travailler et présenter leur démarche ici. Ouais. Mais c'était l'année aussi où on avait invité Olivier Martin et Patrick Bernier, un couple d'artistes nantais, qui ont présenté une pièce qui est une sorte de performance jouée par des avocats, qui s'appelle Plaidoirie pour une jurisprudence, et qui du coup partait, alors pareil, d'une situation inventée, mais qui prenait comme support le droit pour imaginer de travailler le droit des étrangers à travers la question du droit d'auteur. Voilà, donc c'est toute une plaidoirie qui est jouée en direct. Et qui...
À travers la question du droit d'auteur.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus cette connexion, parce que...
Alors, mettons que des artistes sont invités en Grande-Bretagne pour présenter une exposition. Et puis, le jour où ils ont cette invitation, ils apprennent que... une personne qui essaye de rejoindre l'Angleterre se noie et meurt en mer ou dans le souterrain qui mène en train de la France jusqu'en Angleterre. Et du coup, comment prendre en compte cette situation-là? Donc il se dit, en fait, moi je vais inviter une personne exilée dans l'exposition, et on va dire que l'œuvre, c'est son récit, et qu'il est porteur de ce récit-là, auteur, quoi, voilà, de sa vie, de son périple, et que du coup, en réfléchissant sur ces questions de déplacement de statut et comment on regarde les choses, se dire finalement, peut-être qu'il y a quelque chose à défendre là qui peut se faire dans le cadre d'un artiste ou d'un auteur. Et pourquoi pas, du coup, dans le cadre de la vie de personne, quoi. Voilà.
Vous êtes à l'écoute de Vendredi ou la vie locale, une émission aujourd'hui consacrée à Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, avec Pomme Boucher de l'association Quartier Rouge.
À Calais, donc, ils ont été un peu plutôt travaillé à faire un peu un état des lieux de toutes les constructions précaires qui ont été construites dans la jungle. Avec des jeunes architectes qui sont venus, y compris des notes, qui ont dessiné tous les habitats qui ont été faits, les écoles, les habitations, les restaurants, tout ce qui avait lieu à Calais, en fait, dans la jungle. Et qui sont aussi dans une forme d'affirmation, avec un regard un peu différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir, et du coup qui s'intéressait plutôt à regarder qu'est-ce qui s'invente en termes de vie dans ces espaces-là, plutôt que de le voir comme des endroits dégueulasses qu'il faudrait absolument éradiquer, plutôt se dire, quelles opportunités, qu'est-ce qui se présente dans ces endroits-là, sans dire qu'évidemment, c'est des situations enviables, mais en tout cas, de comprendre qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui se met en place dans ces espaces. Et du coup, ils se sont mis à écrire notamment le discours que la mairesse de Calais n'a pas écrit.
La lettre que la maire de Calais n'a pas adressée aux Calaisiennes et aux Calaisiens, lue par Juliette Binoche le 21 février 2016. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, vous entendrez, je le sais, toute la gravité du message que je vous adresse aujourd'hui. Élue de la République, je ne pouvais rester sourde un jour de plus à sa nécessité, retenir les mots difficiles qu'exige de ladite crise des migrants. La préfète du Pas-de-Calais nous l'annonce. Des machines s'apprêtent à détruire la jungle de Calais. Je vous l'annonce, il s'agit là pour nous tous d'une erreur colossale. Avouons qu'avant d'envisager de nettoyer la jungle, nous l'avons créée avec la ferme ambition de nettoyer la ville. Nous voulions détacher les migrants de Calais, couper les liens existants entre eux et nous. Nous commettions une première immense erreur. Maintenant, nombre d'entre vous voient le temps des squats en centre-ville comme un moment beaucoup plus paisible qu'aujourd'hui. Car images, fantasmes et peurs de l'inconnu ont en effet remplacé ces rapports. Ils étaient difficiles, mais humains. Alors, cette politique, cette casse, à vrai dire, a nourri des forces haineuses, minoritaires, je le sais, mais ô combien bruyantes et spectaculaire. Il y a un an donc, nous avons dépossédé Calais de ses migrants et détaché ces derniers de notre ville, de ceux et celles parmi vous, discrètement souvent, en œuvrant à un accueil digne, donnait en acte une image formidable de notre commune. Alors, dans la jungle, les bénévoles du monde entier ont pris le relais de ces associations locales qui n'ont pas pu continuer. Les mois ont passé, la mobilisation n'a cessé de s'amplifier, vigoureuse, magnifique à vrai dire. Nous y voici. La jungle n'est plus un problème local, elle est devenue l'un des centres symboliques du monde. Les Chinois envoient du matériel, de nombreux Anglais et Belges sont sur le qui-vive et apportent leur aide incessante. Des volontaires de la France entière, d'Espagne, d'Italie donnent un coup de main, un week-end, quelques jours, parfois des semaines. Calais est devenu, par le geste même qui voulait rendre les migrants invisibles, le symbole éclatant du ralliement des bonnes volontés, le nom majuscule que porte l'hospitalité faite aux exilés. Ce n'est pas contre nous que ce mouvement a pu naître, c'est à la fois malgré nous et grâce à nous. Si nous rasons la jungle, c'est bien cette extraordinaire ville mondialisée, généreuse et active qui serait rasée. En striant les alentours de barbelés, en arrachant des forêts, en inondant des landes, en sécurisant tous les accès, c'est Calais que nous défigurions. Il est urgent de comprendre ce que nous détruirions. Non tant les pauvres abris de misérables, mais le travail collectif de tous ceux qui se sont solidarisés avec les exilés, ces rescapés des bouleversements les plus profonds de notre monde. De quel droit jeter aux bennes à ordures ces tonnes de vêtements, de chaussures, de nourriture apportées par des bénévoles? De quel droit détruire les baraques, les écoles improvisées mais réelles, des lieux de réunion, des théâtres, des églises, des restaurants, que des mains de tout pays et de toutes couleurs ont construit ensemble? De quel droit détruire une cité fragile, mais d'autant plus vivante qu'elle ne tient que par le soutien continu que sa survie requiert et qu'elle obtient? Cette ville, vue d'Écosse et de Lampedusa, de Paris, du Moyen-Orient ou d'Australie, ne se nomme pas jungle, mais Calais. Calais n'est plus seulement à nous. Elle n'est pas davantage aux seuls exilés. Ce n'est pas 5000 abris que nous détruirions. C'est une œuvre collective, tentaculaire, dressée malgré les barbelés et la boue. Ce n'est pas une marge contenue, immonde, que les machines nettoieraient. C'est une ville monde, l'identité même de ce qu'est devenue notre ville. Les bulldozers écrasant la jungle ne détruiraient pas que quelques planches et quelques toiles, c'est Calais même qu'elle enfoncerait dans la boue, contredisant jusqu'à nos obsessions les plus hygiénistes. Ne faisons pas une deuxième erreur, plus terrible encore que la première. Je vous demande d'entendre mon message, de comprendre qu'il dessine pour nous tous une voie cruciale et possible, suivre le chemin qui conduit Calais vers son rendez-vous du XXIe siècle jusqu'à devenir l'une des capitales les plus importantes du monde, celle qui a fait preuve d'une confiance et d'un accueil exemplaire. J'en suis convaincue. Cette situation de crise, qu'il est en effet, s'avère aussi une formidable chance pour notre ville qui en sortira magnifiquement grandie, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. À la préfète du Pas-de-Calais, j'ai demandé ce matin même de surseoir la destruction de la jungle. J'ai en outre renoncé au projet de la création du parc d'attractions Heroic Land et demandé que les 275 millions d'euros affectés à celui-ci par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire soient mobilisés pour ce chantier bien plus important pour la ville. Construire l'hospitalité, construire l'espoir, construire l'humanité de demain. Calais est son symbole aujourd'hui. Je vous demande avec moi de lancer un appel aux créateurs, architectes, urbanistes, afin que notre ville prenne l'envergure d'une utopie du XXIe siècle et s'avance au devant du monde comme son avant-garde. Nous sommes sur le seuil d'un immense renouveau. Je vous demande de vous engager pleinement dans celui-ci avec moi. Nous ferons alors un miracle.
Vous venez d'entendre la lettre que la maire de Calais n'a pas adressée aux Calaisiennes et aux Calaisiens, lue par Juliette Binoche le 21 février 2016.
Et donc, ça a donné lieu à une parution dans un faux Calais Mag qui a été distribué à toutes les habitants de Calais. Et donc, il y a eu aussi tout un travail photographique, donc des commandes photographiques faites à des photographes pour documenter tout ce qui a eu lieu à Calais. Puis, ils ont été invités, en fait, je crois que c'était en 2017, à présenter, dans le cadre d'une biennale d'architecture qui avait lieu à Orléans, au FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, qui a une collection autour de l'architecture et donc a invité Pérou à transmettre et faire un dépôt de ce qui est de leur travail à Calais. Donc était tout comme ça, voilà, tout un descriptif de tout ce qui avait lieu là-bas, d'une certaine manière de prendre à rebousse-poil l'institution et lui dire, ben voilà, on fait un dépôt dans un fonds national afin de dire que ce lieu-là existait, même si vous le rasez demain, eh bien, nous, on est là pour témoigner de ce qui a eu lieu. Donc, c'est des formes d'affirmation comme ça, en fait, et donc des modalités d'intervention qui s'appuient sur des récits un peu différents de ceux qu'on a malheureusement l'habitude d'entendre. Et depuis Calais, il s'est posé la question, et ça c'était quand on a invité Sébastien Thierry en 2017 à présenter la démarche de Pérou. Il était en train de s'interroger sur comment soutenir en fait tout ce qu'on appelait les délits de solidarité. Donc, parce qu'il y avait différents procès qui étaient menés contre des personnes qui avaient apporté de l'aide aux personnes réfugiées. Et à partir de là, ils ont commencé à récolter tous les petits actes d'hospitalité qui ont eu lieu et qui étaient donc témoignés par les personnes elles-mêmes. Donc il y avait comme ça des sortes de feuilles de dépôt, de consignation de tous ces petits actes d'hospitalité qui allaient de offrir un thé, un hébergement, une lessive, enfin tout ce qu'on peut imaginer que beaucoup de gens font. Et donc, il y a eu une collecte comme ça des actes d'hospitalité depuis Calais et puis qui s'est répandue un peu partout en France et qui ont donné lieu à un texte qui reprend en fait tous ces actes et donc qui s'appelle « Tout autour, une œuvre commune ». Et puis ça s'est pas arrêté là. Ça a été édité, donc il faut savoir que ce petit livre existe, il a été édité en 2018 ou 2019, et il y a 1 € par vente de reversé pour SOS Méditerranée quand on achète le livre.
Radio Vassivière, Vendredi ou la vie locale, une émission consacrée ce soir à Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, collectif cofondé en 2012 par le politologue et professeur en école d'architecture Sébastien Thierry et le paysagiste Gilles Clément. Pomme Boucher nous raconte comment le collectif, auquel contribue l'association Quartier Rouge, en est venu à chercher à inscrire les actes d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Sébastien Thierry a rencontré aussi Mireille Delmas-Marty, qui elle est juriste et qui œuvre plutôt pour une politique de l'accueil et de l'hospitalité. Sébastien m'a ensuite rappelé en me demandant de contribuer dans l'idée d'argumenter une requête auprès de l'UNESCO pour que soit reconnu l'acte d'hospitalité au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et donc, il a fait cette démarche auprès d'une 40aine de personnes qui ont répondu et qui sont venues lire leur texte pour les Journées du patrimoine au Macval à Ivry-sur-Seine en 2018. Et depuis, Quartier Rouge participe à cette réflexion autour de cette requête auprès de l'UNESCO. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à faire ? Évidemment, à poursuivre cette collecte d'actes. Donc, qui continue d'avoir lieu aujourd'hui, mais l'idée c'était aussi d'élargir en dehors de la France aux pays européens qui accueillent autour de la Méditerranée des personnes réfugiées. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont demandées dans ce dossier de requête auprès de l'UNESCO, notamment des photos, des témoignages des personnes. Il s'agit de décrire qu'est-ce que c'est qu'un acte d'hospitalité. Voilà, en fait, Sébastien Thierry, pour travailler autour de ce dossier-là, il a candidaté à la Villa Médicis à Rome. Il a été invité. Et donc, toute l'année 2020, il a travaillé sur ce projet qui, du coup, a été un peu mis à mal avec la question du confinement, mais qui a quand même eu quelques répercussions, notamment des travaux menés dans un squat à Rome. On a aussi été présenté donc à la Quartier Rouge qui était en lien avec le Relais Culture Europe à Paris, mais à Palerme. On a été invité aussi par l'université de droit à Palerme pour présenter cette initiative. Et du coup, il y a des liens qui se sont tissés petit à petit pour continuer des collaborations à Palerme, à Rome, mais aussi à d'autres endroits en Europe. Alors, le Relais Culture Europe, c'est une structure qui est missionnée par la Commission européenne et par le ministère de la Culture en France. Il y a en fait l'équivalent du Relais Culture Europe dans chaque pays européen. Et en fait, leur mission est de faciliter la coopération entre les acteurs culturels et donc de les aider à répondre notamment aux appels à projets de l'Union européenne dans le cadre de coopération culturelle. Donc ils travaillent à la fois avec tout le secteur culturel, mais aussi cinéma, audiovisuel, le livre, enfin c'est très très élargi quoi. Le patrimoine, la création, les arts visuels, la danse, le théâtre, tout ça. Quand ils ont commencé à travailler avec l'Université de Palerme, dans le cadre d'un projet dans lequel ils étaient partenaires, ils nous ont aussi contactés et donc en nous disant ça peut vous intéresser. Et donc voilà, c'est plutôt des échanges en fait entre nous qui font que évidemment ça intéresse le Relais Culture Europe de se poser la question des personnes exilées en Europe aujourd'hui. Donc la démarche de Sébastien et de Pérou de manière plus globale évidemment est intéressante aussi dans ce cadre-là et aussi sur le fait de le porter sur la scène juridique, puisque c'est quand même ça dont il est question, dans cette requête auprès de l'UNESCO, intéresse aussi l'université de droit à Palerme qui travaille sur ces questions de juridiques, mais aussi d'imaginaire et de récit. Et donc, ils ont un positionnement qui est hyper intéressant. J'ai été 3 fois là-bas. Ils sont dans des questionnements, par exemple. Une des profs qui est assez active à l'université de droit, sur le département de jurisprudence, qui, elle, travaille beaucoup à la question de nations sans frontières, du fait d'être citoyen sans appartenir à un pays, etc. Et donc, c'est plutôt sur des visions d'écriture et de récit aussi imaginaires pour nous amener plus loin que ce à quoi on est assigné à travers le droit tel qu'il est écrit aujourd'hui. Du coup, on a continué ce travail autour du texte tout autour en essayant de le diffuser. On a fait tout un travail aussi avec l'Arc Territoire de l'ENSA à Limoges.
Arc signifie atelier de recherche et de création. L'Arc Expérience du Territoire de l'École d'Art de Limoges se rend régulièrement sur la montagne Limousine depuis 2016. Radio Vassivière leur a régulièrement ouvert l'antenne, des archives à retrouver sur radiovassivière.fr.
Du coup, on a travaillé avec eux, notamment autour du squat à Limoges, squat de la Révolution.
Le squat en question est un lieu où vivent de nombreuses personnes exilées, seules ou en famille, à Limoges donc. Un lieu que de nombreuses étudiantes et étudiants de l'école d'art investissent comme lieu de vie et de rencontre.
Évidemment, ce projet aussi a été mis à mal avec la question du confinement, mais on a quand même pu travailler un petit peu ensemble. Et puis, surtout, ce qui nous est paru intéressant pendant ce confinement, c'est que, et ça va intéresser Radio Vassivière, nous avons travaillé à la diffusion du texte par l'intermédiaire de l'enregistrement. Et donc, on a commencé, il y avait une petite antenne locale, une radio pirate, pendant le premier confinement. Et donc, on s'est mis à lire donc, ces actes d'hospitalité et à les diffuser comme ça, par petites bribes, dans le cadre d'un petit programme journalier. Et puis, là, récemment, on s'est dit que ce serait intéressant de poursuivre, en fait, ce travail-là. Et notamment, le texte a été aussi traduit en plusieurs langues. Donc, il a été traduit, pas en anglais, pas encore, mais il a été traduit en italien, il a été traduit en grec, en arabe, en néerlandais, en allemand. Et donc, on a organisé avec Karine, qui s'occupe du Flebus, une petite lecture collective, puisque Karine connaît plein de gens qui parlent évidemment des langues diverses, puisqu'elle est prof de français langues étrangères. Et donc, on a fait une lecture collective des textes dans ces différentes langues, dans l'idée de le diffuser sur Radio Commons. Alors Radio Commons, c'est un projet qui a été, une initiative plutôt du Relais Culture Europe. Il se trouve qu'en fait, ils réfléchissaient aussi depuis un petit moment à une forme éditoriale, de voir comment on pouvait avoir une forme de publication en commun autour de toutes ces réflexions qui étaient menées par des acteurs culturels en France, mais aussi en Europe, une manière de partager et de rendre public en fait autrement ces initiatives. Et donc il se trouve que le médium radiophonique a été une bonne méthode.
Le Relais Culture Europe a réuni dans le programme Radio Commons des acteurs européens impliqués dans la question de l'hospitalité, qui ont proposé chaque week-end, entre le 19 septembre et le 19 octobre dernier, des podcasts radiophoniques, à l'instar de l'association Quartier Rouge.
Donc ça, c'était un premier lancement, une première édition qui avait pour idée de mettre en dialogue ces différentes initiatives sur des thématiques d'actualité, et la question des personnes exilées en faisait partie.
Donc le Pérou apparaît comme une initiative parmi d'autres dans ces podcasts.
Oui, tout à fait. Donc il y a des moments de table ronde, de discussion entre différents acteurs, de Turquie, d'Italie, différents pays en fait qui ont contribué. Voilà, donc il y avait des thématiques par week-end. Avec Pérou, on s'est dit que ça pouvait quand même être un moyen de diffuser. C'était aussi une demande du Relais Culture Europe qu'il puisse y avoir une présence en fait, de cette démarche-là dans le cadre de ces moments de diffusion. Donc on a saisi l'occasion pour faire cet enregistrement dont je parlais là tout à l'heure, collectif en plusieurs langues, puisque Radio Commons a été aussi diffusé par Internet, mais dans différents pays. Et donc, voilà, on a enregistré deux sessions différentes, une en français, parce que ça nous a posé aussi beaucoup de questions, cet enregistrement.
Est-ce que tous les podcasts de la série Radio Commons sont multilingues ?
Je crois que beaucoup de discussions ont été en anglais, les tables rondes, ou retranscrites ou traduites directement en anglais. Et après, non, il y a des choses qui sont dans des langues en particulier et tout n'est pas retraduit, forcément. Donc nous, on a fait le choix pour cette lecture de la présence de traductions en différentes langues, mais de mettre en avant, puisque ça a été aussi enregistré en France, le français, pour qu'il y ait une compréhension quand même du texte, parce qu'en fait c'est plein de petits témoignages très courts, donc pour qu'il y ait quand même une continuité de compréhension du contenu. C'est quand même des témoignages aussi de personnes, donc il s'agissait aussi de prendre soin et de pouvoir retranscrire et que ce soit audible, au moins pour une partie de l'auditoire. Du coup, on a décidé de le faire en français. Mais en fait, cet enregistrement-là pourrait très bien être refait en italien, refait en grec, refait en arabe. Voilà, c'était aussi un petit dispositif d'enregistrement qui... Et c'est un peu ce qu'on souhaite, en fait, quelque part, c'est que ça puisse être enregistré. C'était une première manière de le faire, mais ça peut être relu et transmis à d'autres ailleurs et fait dans différentes langues, quoi.
De la même façon que Pérou propose une espèce de protocole, et du coup, si on va sur le site de Pérou, on peut trouver cet inventaire d'actes d'hospitalité, et on voit différentes images d'accrochage de ces failles à quatre dans l'espace, avec différentes formes peut-être d'édition.
Ça c'est un des objectifs pour la requête auprès de l'UNESCO. Il faut pouvoir aussi montrer, définir un plan de sauvegarde. Donc comment on fait un plan de sauvegarde des actes
d'immatériel.
De l'immatériel. Alors, il ne s'agit pas d'un geste ancestral de prendre le thé, par exemple. Mais voilà, donc comment est-ce qu'en fait on peut continuer à amplifier et à entretenir en fait ces actes d'hospitalité ? Alors, il nous semblait qu'évidemment, les diffuser était déjà une manière de leur donner une existence, une réalité, de les encourager, de les soutenir à des endroits où ils sont mis à mal. De dire, voyez, vous n'êtes pas seul, il y a d'autres personnes qui le font, et ce, à peu près partout, mais bon, c'est pas ce qu'on entend en général, mais voilà. Donc l'idée, c'est aussi ça, voilà, comment soutenir et entretenir ce patrimoine-là, c'est aussi de le diffuser, de montrer, de faire entendre un autre récit autour de ça. Évidemment, pas de le criminaliser.
Est-ce que à Quartier Rouge, vous avez proposé, comment dire, vous avez réalisé des moments de récolte de témoignages, étant donné qu'on vit sur un territoire où il y a pas mal d'accueil?
Alors ça a eu lieu la première édition, fin de Sébastien, en 2017, un tout petit peu. On l'a pas refait. Il y a des personnes qui souhaitaient le faire sur le marché à Feltin. Ça s'est fait de manière un peu aléatoire, mais je dirais pas de manière très, très suivie. Enfin, on a un peu une place un peu particulière, je dirais, parce qu'on essaie d'activer, en fait, cette publication. C'était un peu la mission qu'on s'était donnée, là, pour l'année 2020. Donc, c'était pour ça aussi qu'on a travaillé avec les étudiants de l'Arc Territoire à Limoges. Alors, ce qu'on n'a pas pu faire avec eux, c'était notamment au squat de Limoges de récolter tous les actes qui ont fait le squat. Ça fait partie aussi d'une forme d'hospitalité, que ce lieu-là existe. Donc ça, c'est ce qu'on avait prévu de faire, notamment avec PAN, Phénomène Artistique Non Identifié, qui est donc une association à Limoges qui nous avait invités dans le cadre d'une programmation au printemps qui n'a pas eu lieu. Donc c'était une des choses qu'on voulait faire, mais surtout au squat à Limoges, mais qu'on n'a pas pu faire. Et voilà, après on a imaginé des moments, mais pour l'instant ça s'est pas fait de manière très très concrète encore.
L'épisode que vous avez proposé Pérou, du coup dans le cadre de Radio Commons, s'appelle Par où commencer ? Série 5, circuler, habiter, ou j'y suis pas du tout ?
Si, c'est ça. Par où commencer, c'était le titre générique en fait de Radio Commons. C'était une manière de démarrer une forme d'édition, voilà, qui a pris la forme radiophonique pour ce coup-là, en tout cas, et qui j'espère va continuer. Et voilà, par où commencer, plutôt dans l'ordre d'une réflexion et d'une diffusion européenne de cette réflexion.
Série 5, ça veut dire que c'était le cinquième podcast.
Ça veut dire que c'était le cinquième week-end. Donc en fait, ils avaient des thématiques comme ça sur chaque week-end, différentes. Voilà. Et donc, nous, on a proposé tout autour, dans le cadre de ce qu'ils appelaient noises, qui sont plutôt des petits temps d'expérimentation sonore, radiophonique. Voilà. Donc, ça dure 16 minutes.
Et on écoute ça tout de suite sur Radio Vésipia.
Radio Commons, des séries de podcasts collaboratifs, d'échanges, de partage et de coopération pour explorer le présent européen.
Lydia H., 53 jaar, werkloze, woonachtig in Calais, gaat op 21 februari 2017 rond 10:30.
Basile B., 25 ans, étudiant résident à Paris, rencontre Zaïd E., afghan d'une quinzaine d'années, le 3 février à 18h, sur un banc situé à quelques pas de la porte de la chapelle. Ils s'échangent sur leur smartphone des vidéos de danse hip-hop. Basile B. invite ensuite Zaïd E. à partager un sandwich grec, lui donne l'adresse du 104, espace culturel du 19e arrondissement où de nombreux danseurs de hip-hop se retrouvent, et lui propose de l'y accompagner le lendemain soir.
De twee stapeltjes kleren stopt ze in haar twee wasmachines. Zo draait ze meerdere wasjes.
Gaspard C., 21 ans, étudiant résident à Paris, accompagne Souleyman G. et Mohamed H., deux Soudanais âgés d'une vingtaine d'années, à une fête organisée le 13 juillet par le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Il leur présente Suzanne M. et Kader E., couple d'amis œuvrant dans un collectif qui mobilise des places d'hébergement chez les particuliers. Souleyman G. et Mohamed H. espèrent pouvoir quitter les trottoirs de la capitale où ils dorment depuis 2 mois. Après avoir partagé quelques bières et s'être échangé leur numéro de téléphone portable, ils dansent jusque tard dans la nuit.
Martine D., 69 jahre, rentnerin aus Calais, bietet am 17.
Esperanza M., 42 ans, sans profession, domiciliée à Pau, donne le 13 avril le double des clés de sa maison à Rafat T., afghan de 15 ans, qui loge depuis une semaine dans la chambre d'amis.
In die Küche, wo Martine B. am Herd steht,
Anne-Sophie R., 39 ans, médecin généraliste, accompagne au CHU de Montpellier le 3 septembre au matin Mustapha O., soudanais de 26 ans, atteint d'une maladie chronique. Anne-Sophie R. l'aide à comprendre le traitement proposé. Le lendemain, elle conduit Mustapha O. à la journée d'intégration de la fac de Montpellier.
Brigitte S., 56 ans, secrétaire de direction habitant à Bayonne, rencontre le 29 août, en sortant de son bureau, deux jeunes hommes d'origine érythréenne qui viennent dépasser la frontière à Indé. Ils ne savent pas où dormir et leur proposent de les accueillir chez elles pour la nuit. Le lendemain, selon leur souhait, elle les amène prendre un bus pour Paris.
Mamadou T., 42 ans, gérant de brasserie domiciliée à Anglette,
Pyrénées-Atlantiques offre le 18 juillet vers 13h un repas complet, entrée, plat, dessert et boisson à Rafa T, afghan de 15 ans.
E poi parte verso la place de l'église. Là incontra Janis O, 22 anni,
Carole R, 42 ans, artiste et travailleuse sociale demeurant dans le 19e arrondissement de Paris, sollicite son réseau de connaissances pour récupérer des chaussures et des habits masculins.
Emmanuel A,
elle collecte ainsi 3 mètres cubes de vêtements. Aidée de quelques amis, elle les distribue le 27 juin à 9h du matin en marge du service de petit déjeuner qui a lieu sur les quais du canal de l'Ourcq, puis le 16 septembre au même endroit alors que la température est tombée à 6 degrés.
Simon K, 31 ans, serveur demeurant à Pantin, retrouve Kyros M, éthiopien, âgé de 22 ans, dans un café de l'avenue Jean Jaurès à Aubervilliers, le 1er juillet à 16h30. Simon K nomme les objets et matériaux composant l'intérieur de l'établissement. Il décrit ensuite les actions qu'il voit se dérouler dans la rue. Kyros M répète les mots et les phrases plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un signe approbateur de Simon K lui signifie que sa prononciation est correcte. Ce cours de français se poursuit ainsi pendant une heure.
Michael B. Bernard T., 21 Jahre, Tischer aus Dünkirchen, behält einen Teil seiner Garage der Lagerung von Brettern, Werkzeugen, Nägeln und Sägespänen vor, die er seit Jahresbeginn sammelt. Am Wochenende transportiert er diese Materialien.
Adanté et Lisa G, 10 ans, écoliers habitant Cahors, préparent un exposé pour leur classe de CM2 en juin. Leurs parents les ont aidés à recueillir des informations et des images sur la situation des exilés et l'accueil que des particuliers et des associations leur proposent un peu partout en France.
Ο Γκουίν Ντοτέ, 32 ετών, χωρίς εργασία, κάτοικος Ορλή,
Bertrand R, 34 ans, demeurant à Saint-Frion-Creuse, va chercher Mamadi S, ivoirien de 18 ans, à son stage de charpenterie, le 17 février. Comme tous les vendredis après-midi, il emmène au supermarché faire ses courses, puis à son entraînement de foot au club de Feltin. Ils rentrent ensuite ensemble chez Bertrand R, τα νούμερα του τηλεφώνου των γειτόνων του Ζωέ και Μαλίκ και σχεδιάζει ένα πλάνο της γειτονιάς υποδεικνύοντας τη στάση του μετρό και τις δύο πιο κοντινές στάσεις του λεωφορείου.
Ο Κουίν Ντοτέ τους δίνει έπειτα ένα ζευγάρι κλειδιά και εγκαταλείπει το χώρο γύρω στις 11.30 προμεσημβρίας.
Baptiste R, 28 ans, étudiant en médecine domiciliée à Vincennes, quitte son université 2 heures plus tôt que d'habitude. Il se rend en place de la bataille de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris, où il rejoint un groupe de bénévoles avec lesquels il donne des cours publics de français en plein air. Ce jour-là, il enseigne aux 70 Soudanais et Afghans de son groupe, niveau 2 intermédiaire, les règles du futur simple.
Mettendoli nei posti assegnati. Una volta scesa al binario, aspetta la partenza del treno prevista per 11:46.
Sylvain M et Pascal T, respectivement âgés de 34, 37 et 51 ans, artistes demeurant à Saint-Ouen, finissent de nettoyer et ranger la pièce de 84 mètres carrés qui leur sert d'atelier. Nous sommes le 10 juillet, il est 17h. Vers 18h, 13 jeunes Soudanais et Érythréens s'y installent pour la nuit.
في 23 أيار مايو يخبرهما الشاب أنه ينوي استكمال طريقه
ميلان تي 81 ans retraité demeurant à Calais vérifie le bon fonctionnement de sa connexion internet avant d'aller se coucher. Nous sommes le 12 septembre, il est 21h. Depuis un an, des migrants se rassemblent chaque soir devant chez elle pour utiliser son wifi qu'elle laisse volontairement en accès libre.
Solange B, 48 Jahre,
Martine H, retraitée domiciliée à Lille, entreprend à la demande de son mari, âgé de 72 ans, malade et lourdement handicapé depuis 2 ans, des démarches en vue d'accueillir chez eux des réfugiés sans logement. Après diverses recherches, Martine H adhère via Facebook à un collectif de soutien. Le 12 juin, le couple peut ainsi recevoir pour la première fois dans son pavillon un jeune Irakien sans papier, Baravan T, 23 ans, qui reste quelques jours. Depuis, Martine H. relance le réseau dès que leur chambre d'amis est libre.
Ο Μισελ Πε ειδοποιήθηκε από την Ρασέλ Κα, 39 ετών, καθηγήτρια στο ΜΕΤΣ, που είναι η γειτόνισσά του στην εξοχή.
Isabelle S., 48 ans, Κούνα, domicilia à Bilorel.
Μετά την αξιολογραφία γίνεται διάγνωση
πληθυσμού. Entreprend des démarches le 6 juin pour que Paul M., ivoirien de 15 ans, puisse débuter en apprentissage en chaudronnerie à Rouen.
Δίνει στον ασθενή του μια θεραπεία για 10 ημέρες. Δεν ζητά να πληρωθεί ούτε για την ιατρική επίσκεψη.
Luc G., retraitant résident à Saint-Maur-les-Fossés, entreprend de faire rénover et repeindre un studio dont il est le propriétaire à Créteil. Les travaux s'achèvent le 10 avril 2017. Luc G. met alors son petit logement à la disposition du collectif Réfugiés Bienvenus.
Cécile D., 35 ans, maestra di scuola, abita nel 19e arrondissement di Parigi.
Jean-François M., 57 ans, chercheur domicilié dans le 19e arrondissement de Paris, sort de son domicile de l'avenue de Flandre le 22 avril à 8h30 du matin. Il discute avec plusieurs exilés installés devant son immeuble. Au cours de la conversation, Ali H., 31 ans, soudanais, lui indique que ses camarades et lui manquent de produits d'hygiène. En fin de journée, Jean-François M. achète 6 gels douche, 6 tubes de dentifrice et 6 brosses à dents qu'il remet à Ali H. en rentrant chez lui.
Chantal M., 61
ans, bibliothécaire domiciliée à Bordeaux, demande à Abdullah A., 46 ans, soudanais, une pièce d'identité pour procéder à son inscription à la bibliothèque le 22 mars. À l'hésitation d'Abdullah A., elle comprend qu'il n'est pas en mesure de présenter un tel document. Chantal M. poursuit l'inscription en murmurant « On dira qu'on l'a vu ».
Dominique, mais في منزله منذ عدة أسابيع.
Patrick B., 45 ans, avocat, domicilié à Nantes, participe à une permanence juridique bénévole le 5 avril, de 18 à 21h. Il y reçoit Wu Chi W, 28 ans, chinois, qui parle un peu anglais. Patrick B. remplit avec lui le premier formulaire de demande d'asile et met le jeune homme en contact avec les organismes qui pourront l'aider à trouver un logement.
Om in haar huis aan te schuiven aan de gastentafel. Ze zet hun rode linzen
voor. Vincent V, 22 ans, étudiant en psychologie, domicilié à Anglette, Pyrénées-Atlantiques. Retrouve Ali F. et Abbas M., deux Soudanais âgés respectivement de 22 et 24 ans, place de la Liberté à Bayonne, le 23 juin à 16h. Il leur fait visiter le centre-ville et le quartier des Arènes jusqu'en début de soirée, puis s'attable avec eux à une terrasse de café.
Der junge Mann ist außer Atem und hat Mühe, seine Sätze zu vollenden. Erklärt ihr, dass seine Augen von Tränengas aufgekommen.
Bénédicte V., 30 ans, urbaniste, habitant Caen, réalise un documentaire intitulé « Ce qu'on ne voit pas ». Elle filme 7 de ses exilés en France arrivés en Normandie par les hasards de leur dissémination sur le territoire après l'évacuation de Calais. Ibrahim K., 33 ans, soudanais, Adama B., 17 ans, ivoirien, Sandrine F., 28 ans, congolaise, Amri S., 16 ans, égyptien, Omar K., 18 ans, syrien, Tesfaldet M., 28 ans, érythréen, et Kamara O., 35 ans, ivoirien. Le film montre comment chacun d'eux reconstitue un espace intime dans ces circonstances.
Sylviane M., 33 ans, résident à Paris, croise régulièrement sur le trajet qui l'amène à son lieu de travail une famille syrienne faisant la manche dans le métro. Les deux enfants du couple, une fille et un garçon, ont à peu près l'âge de son fils Arthur, qui vient de fêter ses 7 ans. Le samedi 7 avril, Sylviane M. et son fils, à qui elle a parlé de cette rencontre presque quotidienne, décident de faire un tri dans la bibliothèque du garçon
et d'en retirer les livres qu'Arthur ne lit plus. Plusieurs mercredis de suite, mère et fils descendent ensemble dans le métro pour apporter ces livres aux deux enfants. Ils n'en donnent à chaque fois que deux ou trois, ne sachant pas où loge la famille syrienne, ni si la petite fille et le petit garçon pourront les emporter avec eux. Peu à peu, Arthur se dépossède même des livres auxquels il tient beaucoup. Il s'inquiète longtemps du sort de Riam et de Bassel, dont il connaît à présent les prénoms, interrogeant sa mère pour savoir où ils vont à l'école.
وهو شاب عراقي يبلغ من العمر 19 عاما استضافته خلال يومين ويرحل هذا اليوم نحو دانكيك عند الوصول إلى رصيف المحطة تأخذ يده وتلصق نفسها به موحية بذلك أنهما حبيبان كي تجنب الشاب تفتيش
ماري بيير بي 43 ans. Demeurant à Méry-sur-Marne, accueille chez elle de façon ininterrompue des mineurs isolés, étrangers qu'elle accompagne dans leur démarche auprès des services de l'aide sociale à l'enfance pour faire reconnaître leur statut, ainsi que de jeunes exilés, majeurs, non régularisés. Ainsi a-t-elle hébergé pendant cette période et jusqu'à ce jour
overal rondom un gemeenschappelijk werk
Emmanuel S.
Protocol voor het creëren van een archief Gant, van de daden van gastvrijheid die vandaag Randy, en in de toekomst G. plaatsvinden rondom de Middellandse Zee.
Mamadou K.
In het kader van een bezoek aan UNESCO om de daad van gastvrijheid op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed Dramani van de mensheid te plaatsen.
Bira Ima K.
Rundherum, ein Gemeinschaftskunstwerk.
Adama.
Protokoll zum Aufbau eines Archivs der Gastfreundschaft in Gegenwart und Zukunft rund um das Mittelmeer.
Lansing F.
Im Rahmen des Antrags bei der UNESCO, die Geste der Gastfreundschaft in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufzunehmen.
Amara C.
Ολόγυρα. Ένα κοινό έργο. Πρωτόκολλο για τη δημιουργία ενός αρχείου πράξεων φιλοξενίας που λαμβάνουν χώρα σήμερα και αύριο γύρω από τη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του αιτήματος προς την UNESCO, έχοντας ως στόχο την εγγραφή των πράξεων φιλοξενίας στο ευρετήριο της άειλης πολιτισμικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
Κορομπά M. Aboubakar C.
Tutto attorno un'opera comune.
Aboubakar
protocollo
C.
per la creazione di un archivio delle Aboubakar pratiche di ospitalità D. di oggi e di domani, tutto attorno
Kevin
al Mediterraneo.
T.
Per richiedere all'UNESCO l'iscrizione M. dell'atto di ospitalità nel inventario del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
Irfan M. Sekou.
في جميع الأنحاء عمل مشترك بروتوكول من أجل إنشاء أرشيف لأفعال الضيافة التي ترى النور اليوم وغدا حول البحر الأبيض المتوسط في إطار الطلب الموجه إلى اليونسكو بغرض تسجيل فعل الضيافة على قائمة التراث الثقافي غير المادي الإنسانية
باديوغو كا انفاسيا كا تي
توتوتور une œuvre commune Protocole pour la création d'une archive des actes d'hospitalité ayant lieu aujourd'hui et demain, tout autour de la Méditerranée.
Dans le cadre de la recherche auprès de l'UNESCO, visant à faire inscrire l'acte d'hospitalité à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Vous venez donc d'entendre tout autour une œuvre commune, une réalisation sonore de l'association Quartier Rouge dans le cadre de Radio Commons, par où commencer ? Et pour finir cette émission de Vendredi ou la vie locale, on revient avec Pomme Boucher sur les conditions de réalisation de cette forme sonore.
Il y a eu plusieurs étapes d'enregistrement. Alors il y en a une, c'est pas moi qui les ai réalisées, puisque c'est ce qu'on a fait pendant le premier confinement, donc l'équipe de Quartier Rouge, donc Bertie, Nadège, Julie et moi, on a toutes choisi en fait des témoignages qui nous parlaient par rapport à la situation du confinement, en tout cas qui nous semblaient intéressants de partager. Donc on a chacune lu et on s'est chacune enregistrée dans notre coin. Donc ça, c'est une partie des enregistrements. La deuxième session d'enregistrement a été une session individuelle avec une personne qui habite à Feltin et qui est d'origine hollandaise et du coup qui a lu tous les actes d'hospitalité en néerlandais. Et j'en ai sélectionné que deux qu'elle a lu. Et ensuite, il y a eu une troisième session où là, elle était collective, avec donc à nouveau quelqu'un qui parlait néerlandais, quelqu'un qui parlait allemand, quelqu'un pour le grec, quelqu'un pour l'arabe, quelqu'un pour l'italien et deux personnes pour le français. Donc on était sept autour de la table. Donc là, chacun a lu aussi des témoignages différents. Et ensuite, il y a eu d'autres enregistrements qui ont été faits de manière séparée auprès de personnes plutôt des voix masculines, parce qu'il en manquait quelques-unes. Beaucoup de femmes se sont prêtées au jeu, un peu moins d'hommes, donc du coup j'ai été repiocher des petits sons avec des voix. Et du coup, ce qui était hyper intéressant en fait, et très touchant surtout pendant les enregistrements, c'était vraiment le fait d'être témoin en fait, et de participer aussi à quelque chose. Et qui était de témoigner de la réalité de ce qui se passait sur le territoire. Et ça, c'était une grande force en fait, je trouve, très touchant pour les personnes qui étaient très attachées de le faire bien, de le faire avec soin, qui avaient tout à fait la conscience de ce qu'elles étaient en train de faire à ce moment-là, à savoir de porter l'acte de quelqu'un ou de plusieurs personnes et de témoigner en fait. Et de porter aussi cette demande en fait auprès de l'UNESCO. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment fort et c'était très intéressant. Et je pense que c'est vraiment ce que je retiens moi de ce qui s'est passé en fait. Et tout le monde était très content d'avoir fait ça, vraiment. Donc il y avait beaucoup d'écoute. Alors du coup, après pour le montage, comment respecter tout ça, comment le faire apparaître. Et puis, parce qu'en fait, le choix a été, au début, on pensait qu'on allait pouvoir laisser les différentes langues au même niveau. Et puis, la personne qui fait le montage, elle le fait en français. Donc, le sens qu'on y donne et qui doit être entendu, c'est aussi ces témoignages. C'est pas que la langue, c'est pas que la diversité qui se porte. C'est aussi quand même la sensibilité de ce qui est transcrit, du contenu, des témoignages de chacun. Donc ça, c'était finalement un choix après. Donc là, on a ajouté effectivement ces lectures en français. Et c'était vraiment très plaisant, en fait, de faire ça. Et c'était très intéressant d'être aussi à l'écoute du timbre de voix de chaque personne et de l'émotion, en fait, aussi, qu'il pouvait y avoir pour chacune. Donc c'était... c'était un bon moment.
Ces témoignages d'actes d'hospitalité, ils sont très simplement écrits, très courts. Mmh. Ce que j'ai trouvé très touchant, c'est la simplicité avec laquelle c'est transmis. Mmh. Et du coup, la simplicité du geste, en fait. Mmh. Ça, c'est vraiment super beau. Et je me demandais donc pour l'écriture et le recueil du témoignage, est-ce qu'il existe une trace de la manière dont ça doit être recueilli, écrit? Est-ce que c'est les personnes qui ont elles-mêmes écrit
Ouais, alors c'est ça un petit peu la complexité aussi du recueil de ces actes, c'est qu'effectivement, ils ont été écrits par des personnes concernés directement, donc soit qui ont fait acte d'hospitalité, soit qui ont reçu, Mais c'est réécrit. Donc il y a une retranscription quand même des actes, pour la plupart, de manière à ce qu'on soit sur un rythme et quelque chose de commun quand même, effectivement. C'est pas les personnes qui l'ont nécessairement écrit texto de cette manière-là. Voilà. On reprend les mêmes mots, on reprend la situation, enfin, ça reste la même chose, mais effectivement, par moments, c'est raccourci. C'est toujours dans cette démarche de requête auprès de l'UNESCO où il s'agit de faire émerger la communauté. Donc la communauté doit être consentante pour faire cette requête auprès de l'UNESCO. Pour que l'acte d'hospitalité soit reconnu comme patrimoine, il faut que la communauté qui fait acte d'hospitalité soit consentante pour que cette demande elle existe. Donc c'est aussi ça l'intérêt de faire apparaître tous ces noms.
Et il y a aussi l'âge et la profession des personnes.
Ouais.
Ce qui est toujours un moyen très efficace de... d'aller situer rapidement une personne dans la société et d'éventuellement se rendre compte que...
Ça touche tout le monde, voilà. Ouais.
C'était Vendredi ou la vie locale, une présentation de la démarche de Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, collectif cofondé en 2012 auquel prend part l'association feltinoise Quartier Rouge. Pour prolonger l'émission, rendez-vous sur les sites internet de Quartier Rouge, de Pérou et de Radio Commons.